Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Nouveau projet et la tribune. Au programme, la perfection. Et survie en cas d'apocalypse. Un classement des villes canadiennes. Bonne écoute.
La perfection, un texte de Jean-Philippe Lehoux, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau projet. Malgré son anxiété chronique et malgré Google Maps, un cycliste entame un voyage au Kirghizistan longuement imaginé. Nous vous présentons ici le texte gagnant de notre concours de récits de voyage 2022. Les textes des deux autres lauréats-lauréates peuvent être lus sur notre site web. Nous tenons à remercier tous et toutes les participants-participantes, ainsi que nos jurés Véronique Chagnon et Patrick Turmel, respectivement rédactrice en chef adjointe, et membre du comité éditorial de Nouveaux Projets, et Sarah R. Champagne, journaliste indépendante. La prochaine édition du concours est déjà lancée. Considérez dans ce texte une adrénaline sécrétée de père en fils, un voyage les yeux fermés, l'épopée de Manas, les camps d'internement du Xinjiang et les empreintes de l'extractivisme canadien. La cohésion des mémoires et la glorification de l'originalité. La capacité d'accueil d'une benne de camion. Et moi, je n'aurai que moi et je ne saurai que moi-même. Jean Genet, Le balcon. Ça commence par un tremblement, presque imperceptible. Ses mains. Habituellement, ça lui arrive quand il est témoin d'une injustice. Dans ce cas-ci, on ne peut pas vraiment parler d'injustice, seulement de deux évidences qui s'affrontent. On passe par la route du sud. Non, non, on devrait prendre la route du nord. Son chauffeur allemand a de bonnes raisons d'éviter la route du nord. Il y a du trafic. Et il a un bon allié. Son GPS lui dit qu'il y en a moins dans le sud. Mais les raisons du voyageur n'ont rien à voir avec Google Maps. Ce qu'il aimerait dire, c'est que ce trajet-là représenterait une désacralisation en bonne et due forme de son voyage. Il sait toutefois qu'on n'oppose pas un argument vaguement existentiel à un argument béton baqué par de la triangulation satellitaire. Regarde, c'est rouge sur la route au nord, mais pas au sud. Alors il ne dit rien. Il reste à côté contre la fourgonnette de l'expatrié allemand, dans le stationnement d'une station-service kirghize, sur la route qui relie Bishkek à Karakol. Son vélo est rangé en morceaux dans le coffre et son raisonnement métaphysique, il le sait, est bidon. Il tente donc de contrôler son tremblement avant qu'il ne soit trop apparent et il se tait pour ne pas s'humilier. Je me tais. Celui qui tremble, c'est moi. C'est ce qu'il essaye de faire, en tout cas. Être moi. Rester en moi. Respire, calice, y a personne de mort. Mais en raison d'une adrénaline qu'on sécrète abondamment de père en fils depuis des générations, devant la moindre contrariété, carburant d'un métabolisme terriblement efficace qui broie notre graisse et notre confiance du matin au soir et qui fait qu'on va peser 135 livres jusqu'aux dernières branches de notre arbre généalogique, je tremble et je suis hors de moi. Je ne serai jamais bien loin dans l'histoire, mais je ne serai jamais complètement lui. L'itinéraire que le chauffeur vient tout bonnement de me communiquer m'a débarqué du voyage. Et je vais maintenant être obligé de me courir après pendant des semaines à travers le Kirghizistan. « Bah, allez, mon loulou, c'est pas grave. » Il y a un deuxième cycliste avec lui, un Français avec qui il part régulièrement en voyage. Ils ont fait du vélo ensemble à quelques reprises, surtout en Europe, mais jamais dans un pays comme ça, comme le Kirghizistan. Un pays que quand tu dis que tu y vas, le monde fait « Waouh, vous êtes cool !» Le Français est sans aucun doute l'homme le plus désinvolte qu'il connaisse. Tout au long du voyage, il va se trimballer un mal de dents carabiné et il va finir par se faire refaire toute la gueule par un dentiste officieux de Bishkek qui deviendra son pote. Moins cher qu'en France et très sympa. Il ne se plaindra pas une seule fois. Il va sans dire que l'itinéraire ne fait ni chaud ni froid aux Lyonnais. Par le nord, par le sud, ça mène au même endroit, à Caracol, la ville la plus à l'est du Grand Lac, Issyk-Kul. De là, ils vont enfourcher leur vélo, chargés comme des mules, revenir sur leurs pas par la route du sud pendant plusieurs jours et grimper vers un deuxième lac sacré, le Song-Kul. Le problème, c'est qu'emprunter la route du sud, comme le suggère l'Allemand, revient à lever le voile, en voiture, à haute vitesse, sur les pics du Pamir, qu'ils auraient dû découvrir les jours suivants, lentement, à vélo, au gré des rencontres, sous les yourtes. La route du Nord aurait préservé le côté mystérieux du voyage qu'il tisse dans son esprit depuis des années. À quoi bon maintenant? Le film va se mettre en marche. 30 images par seconde à travers une vitre poussiéreuse. Schlac, 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 schlac. Ils auront tout vu avant de l'avoir vécu. Seule différence, ce qui se trouve à gauche, à l'aller, sera à droite, au retour, et vice-versa. En remontant dans la fourgonnette, il décide de fermer les yeux. Il sait que c'est idiot, mais il le fait quand même. Ça lui donne la nausée, mais il se la joue résistant. « Oh, vise ça, mon loulou !»« Non, non !» Il garde tant bien que mal sa dignité. Fait semblant de ronfler. Petit filet de bave en prime. Pendant 3 heures. Je suis ridicule. Il devrait pourtant jouer le jeu et accepter qu'il n'est qu'un touriste comme les autres. Pourquoi aurait-il le privilège du mystère? Être touriste, c'est se gaver d'images idéalisées du monde pour faire naître en soi des désirs qu'on relâche ensuite, comme des petits cailloux en chemin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose à désirer. Il sait exactement ce qu'il est venu voir. Il désire l'Asie centrale depuis qu'il a lu « Longue marche » de Bernard Olivier, il y a 15 ans, assis à la place du Big Bang du Festival de théâtre d'Avignon. Quand il fermait les yeux, la chaleur n'était plus provençale, elle était turque. Le vent n'était plus mistral, il était caraburant. L'orage noir de Mongolie. Il désire les steppes depuis qu'il a lu « Le loup mongol » d'Homérique et les mots vastes de son narrateur, Bo-Ort-Chou. Il désire les chevaux indomptés depuis qu'il a lu Djamilia du grand Tchingiz Aitmatov. Il désire être là depuis toujours. Il désire surtout se voir être là, en choisissant l'angle parfait de sa mise en scène. Et c'est exactement ce qui arrive. Il se regarde voyager et il ne voit plus que ça. Les premiers jours à vélo, il ne réussit pas à tenir la cadence. Il dort mal. Encore sa tête de gerboise qui n'a pas digéré la décision de l'Allemand. Bilan, ses heures de sommeil sont aussi maigres que ses mollets, qui deviennent encore moins performants. Le Français est toujours devant, avalant les pentes sans trop d'efforts. Pourquoi il ne m'attend pas? Il le sait très bien pourquoi. Parce qu'il est lent et bougon et qu'il passe son temps à dévier de sa route pour aller jouer dans la garnotte dès qu'une voiture le double. Au Kirghizistan, les volants sont soit à gauche, voiture russe, soit à droite, voiture japonaise. Conséquence, c'est le bordel. Ça zigzague pour se donner un meilleur angle de vue et ça dépasse en criant « Inch'Allah ». Il ferme les yeux chaque fois. Est-il encore debout, le chêne, ou le sapin de mon cercueil? Chantait Brassens. Est-il déjà en route, le camion chinois de ma mort? Pense-t-il en allant valser dans le fossé. Il rêve d'un bitume parfaitement lisse, même si ça enlèverait du pittoresque au récit et qu'ici, les belles routes attirent les chauffards pressés. Deux cyclistes vont même y laisser leur peau un peu plus tard cette semaine-là. Ce sont les nouvelles routes de la soie, tentaculaires, qui enrubannent les colonies que la Chine s'offre en cadeau depuis quelques décennies, ces pays en développement qui n'ont pas le choix d'accepter son aide et ses conditions. De l'autre côté des montagnes Tian Shan, le peuple ouïghour, cousin de langue altaïque des Kirghizes, est victime d'un génocide aux mains de la majorité Han. Mais parce que la bonne conscience ne fait pas gonfler le PIB, on laisse transiter les marchandises chinoises en échange d'asphalte neuf et on ferme les yeux. Cela dit, il n'oserait pas faire la morale à qui que ce soit. Son cuissard de cycliste hyper performant a peut-être été tissé au Xinjiang, là où des camps de travail ont été érigés pour briser la communauté musulmane. Il connaît aussi les vices de sa propre patrie. Il voit un peu partout, en bord de route, des signes de la présence de la compagnie canadienne qui, au moment de son voyage, exploite Kumtor, la plus grande mine à ciel ouvert de la région et la seule au monde qui excave des glaciers rocheux actifs. Elle sera nationalisée en 2021 par le gouvernement kirghize. Mort suspecte, allégations de corruption, emprisonnement de militants qui s'opposent à ses activités. Le cocktail habituel. Le plus grand impact est environnemental. Les activités minières risquent d'accélérer la fonte des glaciers et de contaminer les sources d'eau potable. Il se dit qu'il pourrait aller brandir son passeport et cracher son indignation à la face de ses « fellow Canadians », ou taguer un poème de Miron quelque part pour éveiller les consciences. Au fond, même s'il ne l'avoue pas, il préfère être médiocre et unique plutôt que vertueux mais identique. Il ne le fera pas. Il est trop concentré à monter des cols en ayant l'air de s'y connaître. Il attendra d'être de retour à Montréal plusieurs années plus tard, pour écrire des bouffonneries sur les mines abitibiennes pour un public convaincu. En attendant, il vagabonde en touriste, pendant que l'unifolié flotte en voleur dans le ciel kirghize et avale du vent qui n'est pas le sien. Il a un beau voyage authentique à rescaper. Quand ses compatriotes auront fini par déterrer tout ce qui est précieux dans le monde, du Mexique à la Centrafrique, et par enterrer, sous les scories, la moitié de l'humanité qui leur résiste encore, peut-être que son adrénaline et ses tremblements génétiques finiront par se réveiller pour autre chose que des désagréments personnels. Peut-être qu'il finira par ouvrir les yeux qu'il tient fermés depuis Balikchi à cause de l'impureté d'une décision de Google Maps et qu'il se mouillera enfin pour participer à autre chose qu'au festival de lui-même. Peut-être même qu'un jour, il reviendra au lac Songkul, honorer l'invitation de ces deux superbes hommes assis au pied de leur yourte qui lui ont lancé un « Kumiz, Kumiz !» Sollicitation, on ne peut plus claire et bienveillante. « Viens donc boire avec nous !» en ces terres d'hospitalité obligées, mais qu'il a refusé en filant comme une comète sur sa bécane, effrayé que le lait de jument fermenté accélère encore plus sa maladie de Crohn. Pensez, un goût de crème, de Sprite et de foin. Comme il peut être bête! Qu'est-ce qu'une chiasse temporaire contre une rencontre belle et sincère? N'est-il pas venu pour ça? Il a eu beau s'en convaincre, il ne s'est pas arrêté. Il a déjà été plus courageux, moins friable. Mais rappelez-vous qu'il n'est plus tout à fait lui-même. Il flotte à côté de son corps comme un drapeau blanc. S'engager sera pour un autre jour. Une semaine après leur départ, au camp de yourtes qui les accueille et qu'ils ont atteint à cheval, question de changer le mal de fesses, un cavalier profite de leur présence et de celle d'autres voyageurs pour offrir ses talents de manachi. Selon la légende, ces conteurs traditionnels peuvent réciter par cœur les centaines de milliers de vers de l'épopée de Manas, grand récit fondateur kirghize relatant des événements du 9e siècle. Dans leur souffle guttural presque chanté, on devine de l'amour, des combats, des trahisons. Muet devant cette transe mystique, le cycliste au fin mollet se sent enfin rentré en lui-même après plusieurs jours de flottement. C'est à la fois puissant et serein. Il voit dans les yeux du manachi la plénitude et la beauté d'une mémoire collective. Qu'est-ce que je peux réciter par cœur, moi? Il n'y a pas de poème national qui coule en lui comme un fleuve. Quand il ferme les yeux, il n'y a pas d'aïeux qui lui souffle son texte. Il n'y a que son ego, seul en scène, qui cherche à tout prix la singularité. Son ego, qui se fout bien d'une homogénéité des expériences ou d'une quelconque cohésion des mémoires. Il veut des récits originaux, des œuvres contemporaines, des aventures nouvelles. Il a horreur des sentiers battus. Au fond, même s'il ne l'avoue pas, il préfère être médiocre et unique plutôt que vertueux mais identique. Un groupe de Lettons, cavaliers du dimanche comme lui, se met à ricaner dans un coin de la yourte. Le poème guttural n'est visiblement pas leur truc. Un guide kirghize les regarde, blessé, humilié. Il voudrait protéger le rituel sacré de son ami conteur. Personne ne se lève. Le cycliste se tait. Son compagnon français aussi. Les Lettons sont nombreux, sans doute ivres, certainement cons. Ils vont bien finir par se fermer la gueule. Pas de poussée d'adrénaline pour réagir à l'affront. Il ferme les yeux, cherchant à retenir une magie qui lui glisse entre les doigts. Le voyage se termine quelques jours plus tard au col de Moldo-Achou, à quelque 3200 mètres d'altitude. Le porte-bagages du Français a pété au début de la descente. Les cyclistes abandonnent et s'installent au bord de la route. Le Français, comme toujours, reste détendu. « Bon, je me fais une petite clope. » Le village le plus proche est à 50 kilomètres. Après une heure, un camion se pointe sur la piste de terre, chargé jusqu'au ciel. Il tente le coup. « Can we... » suivi du signe plus ou moins universel pour « embarquer dans le camion ». Les trois hommes assis à l'avant se consultent. L'un d'eux descend, ouvre la porte de la benne arrière. Une famille de 10, des moutons et une yourte en pièces. Il n'y a pas de place pour deux vélos. Ils en font quand même, en poussant de toute leur force une brebis qui fera le reste du voyage avec une pédale dans les côtes. Il a toujours désiré ça. Un sauvetage impromptu et authentique en Asie centrale après des journées sans douche. Un vieux chauffeur édenté, coiffé d'un hack kalpak traditionnel blanc, qui lui sourit. Il se voit depuis longtemps être photogénique aux côtés de ce vieillard, avec juste assez de saleté sur son propre visage pour prouver qu'il a mérité sa place au panthéon des voyageurs sales et secourus. Ça fait partie de son plan parfait depuis ses lectures avignonnaises. Être recueilli par une famille chez qui il serait nourri, où on trinquerait à sa santé, où on réparerait son vélo, sans rien demander en retour. Tous les problèmes et les tremblements préalables pour pouvoir vivre cette rencontre-là. Le porte-bagages qui casse au bon mauvais moment, il faut avouer que c'était bien joué. En raison de ce point culminant, à saveur d'épiphanie, il aura tendance à magnifier son voyage, à oublier qu'il a flotté à côté de lui-même dans un désengagement quasi total pendant des semaines et qu'il s'est surtout fait chier à tenter obstinément de reproduire une fiction née de ses désirs de jeunesse. Bien avant d'emprunter la route du Sud, il connaissait ce voyage par cœur. Il l'avait déjà vu 1000 fois. Ce soir-là, il dort comme un bébé. Il rêve à son prochain voyage. Il sera parfait. Jean-Philippe Lehoux est dramaturge, comédien et enseignant. On lui doit, entre autres, les pièces « Napoléon voyage », « Normal » et « Bande de bouffons » qui étaient en lice pour les prix littéraires du gouverneur général en 2021. Les enfants le connaissent en tant que chapelier dans la quotidienne jeunesse « Alix et les merveilleux ». C'était « La perfection », un texte de Jean-Philippe Lehoux, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau Projet.
Survie en cas d'apocalypse, un classement des villes canadiennes. Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 17 mars 2023 dans La Tribune. Si une hypothétique attaque de zombies venait à survenir au Canada, mieux vaut ne pas se trouver au Québec si l'on veut survivre. C'est ce qui ressort d'une étude non scientifique et plutôt rigolote, réalisée par l'entreprise de location immobilière Rentola, dont les résultats ont été dévoilés jeudi. À partir de données tirées de Statistique Canada, qui ont ensuite été traitées et converties sur une échelle de 10, Rentola a dressé une liste de 35 zones urbaines qu'elle a classées selon les chances de survie de ses habitants en cas d'apocalypse. La densité de population, la prévalence des problématiques de santé mentale au sein de celle-ci, la taille moyenne des ménages, la proximité des parcs, le taux d'inoccupation des logements, le taux de criminalité par tranche de 100 000 habitants, le nombre d'infractions liées à l'utilisation ou la possession illégale d'armes à feu, différents indices de mobilité et la présence de ressources naturelles comme de l'eau ou des végétaux ont été pris en considération pour établir le classement. Ce faisant, les régions urbaines de Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke et Saguenay occupent respectivement les 3e, 4e, 5e et 6e rangs des villes canadiennes où les chances de survie sont les plus minces. À l'inverse, aucune région urbaine du Québec ne figure parmi les 10 où les chances de survie seraient les plus élevées. L'agglomération d'Ottawa et de Gatineau figure au 14e rang, après quoi il faut descendre de 10 places pour retrouver la grande région de Québec. Au pays, les agglomérations les plus sûres, selon l'enquête, sont celles d'Edmonton, en Alberta, de Saskatoon, en Saskatchewan, et de Guelph, en Ontario. À l'inverse, la zone de recensement moins sécuritaire serait celle de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, suivie par Belleville, en Ontario. C'était « Survie en cas d'apocalypse, un classement des villes canadiennes », un texte de Marie-Ève Martel paru le 17 mars 2023 dans La Tribune.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.